La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous, la compagnie des auteurs marque aujourd'hui pour le troisième jour d'affilée un arrêt à Barcelone. À son bord, un équipage sans lequel rien ne serait possible, composé aujourd'hui de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Genepin, Laurence Millet, Laurent Travagli-Chanal, Milena Elig et Victoria Asper. Barcelone est la ville des prodiges pour Eduardo Mendoza, celle des prostituées, du sexe et du jeu pour Jean Genet, de l'anarchie et de la rébellion pour George Orwell, tout un imaginaire historique qui se mêle depuis les années 90 avec l'atmosphère globalisée d'une ville devenue très ouverte sur le monde, comme nous l'avons vu lundi, lors d'un premier panorama littéraire de la ville avec Sophie Savary et aussi Pierre Ducrozet. Pierre Ducrozet qui a dirigé le livre Barcelone, histoire, promenade, anthologie et dictionnaire, lequel vient de paraître chez Robert Laffont dans la collection Bouquins et qui est l'occasion de notre série. Hier, toujours avec Pierre Ducrozet, mais accompagné cette fois de Mathias Sénard, nous avons visité le Barcelone des écrivains disparus dans une émission promenade à retrouver en podcast. Enfin, demain, deux grands entretiens, d'abord avec l'écrivain Javier Cercas, puis en seconde partie avec l'auteur Rafael Argüyol. Nous évoquerons les velléités indépendantistes de la Catalogne, mais aussi le spectre de Gaudi sur Barcelone, et il sera bien sûr plus largement question de littérature. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour évoquer l'écrivain barcelonais Manuel Vázquez Montalbán, né en 1939 et disparu en 2003, nous ferons en seconde partie une balade dans Barcelone avec son fils Daniel. Mais tout de suite, nous sommes en compagnie de la romancière, critique littéraire, éditrice et traductrice Michèle Gazier. C'est elle qui a fait connaître Montalbán en France grâce à ses traductions. Elle l'a également fréquenté en tant qu'amie pendant plusieurs décennies. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Je suis un survivant, parce que j'ai survécu au franquisme, j'ai survécu à la résistance contre le franquisme, j'ai survécu au dogmatisme de la gauche, j'ai survécu à l'espoir messianique sur le monde nouveau, mais un survivant solidaire. C'est-à-dire un survivant qui fait sien un peu l'affirmation de Sartre de que la liberté d'une personne, la liberté individuelle, c'est une liberté inutile sans la liberté des autres.
Bonjour Michèle Gazier.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous retrouvez dans cette archive un peu la personnalité de Montalbán avec ce ton très légèrement désabusé et puis en même temps cet humanisme qu'on entend quand il dit que la liberté individuelle, elle est inutile sans la liberté des autres.
Oui, c'est une voix émouvante, bien sûr, puisque ça fait longtemps qu'on ne l'entend plus directement. Mais oui, effectivement, il a toujours eu ce ton un peu en dessous de ce qu'il disait, aussi bien pour les choses sérieuses que pour les choses pas sérieuses. Ce qui fait qu'on mettait un certain temps à se rendre compte que ce qu'il disait était sérieux, ou au contraire, qu'il se fichait de nous et que, en fait, c'était pour nous faire rire. Et par exemple, quand l'Espagne est rentrée dans l'Europe, il m'a appelé, il m'a dit « ça y est, on n'est plus africain ». Voilà. Mais c'était sur ce ton-là, « ça y est, on n'est plus africain ».
Mais lui-même, il avait une apparence de sérieux, il avait un physique presque un peu
oui,
sérieux.
Oui, c'était un homme petit qui pouvait être très gros ou parfois très maigre parce qu'il faisait tout le temps des régimes qui le faisaient changer de volume. Et c'était quelqu'un d'assez sérieux. Il était en réalité pas sérieux du tout, mais on avait du mal à percer cet humour qui était un humour extrêmement caché, un humour catalan, je dirais. Parce que même s'il n'était pas de famille catalane, puisqu'il était galicien, ses parents étaient des immigrés de Galice, cette immigration intérieure qu'on retrouve en Catalogne, et Barcelone est la ville de toutes les Espagnes. Hein. Tout le monde est venu vivre, enfin, tous les gens de toutes les régions pauvres ont immigré à Barcelone, donc ses parents, lui est né là, à Barcelone, mais il avait gardé ce ton un peu comme ça, un peu renfrogné. Il n'était pas directement directement sympathique quand on le voyait pour la première fois. Après, il était irrésistible.
Alors vous, vous avez été pendant 13 ans professeur d'espagnol. Oui. Et puis, on peut dire que votre carrière littéraire, à proprement parler, elle commence avec l'intérêt que vous allez porter à Montalban, puisque c'est vous qui allez traduire ses livres. Vous êtes d'abord allé le voir. Alors j'imagine que vous avez découvert par hasard ses livres en Espagne.
Alors c'est plus compliqué. J'étais donc étudiante en espagnol. J'étais à Montpellier et il y a eu un cours qui nous a proposé d'aller passer 3 jours à Barcelone pour y rencontrer des écrivains. C'était à la fin des années 60, C'était fin 68 si je ne m'abuse. Et on était invité à aller déjeuner dans un restaurant qui s'appelle Culleretes, qui était un restaurant très connu de Barcelone. Et il y avait là 3 écrivains, 2 dont j'ai tout oublié, je crois qu'ils sont oubliables. Et le troisième, c'était effectivement Manolo Vázquez Montalbán, qui n'a pratiquement pas desserré les dents de tout ce déjeuner.
Alors pas du tout comme ses héros, et notamment comme Pepe Carvalho. C'était un peu l'inverse finalement de l'exubérance.
Tout le contraire.
Auquel on pourrait s'attendre.
Voilà, il n'était absolument pas exubérant, mais il avait un excellent coup de fourchette. Et donc c'est quand même lui qui nous avait conseillé dans nos choix alimentaires. Mais on ne peut pas dire, les gens, les étudiants qui étions là, on s'est tout dit, c'était essentiellement des filles qui faisaient des langues étrangères. Bon, il n'est pas très sympathique, mais il avait quand même quelque chose qui m'amusait beaucoup. Et puis j'avais lu un premier livre de lui qui s'appelait Le Manifeste Subnormal. Et quelqu'un qui avait écrit Le Manifeste Subnormal ne pouvait pas être quelqu'un de sinistre, de bougon. Il y avait quelque chose à voir derrière. Donc j'ai continué à le lire. Et des années plus tard, quand il a publié son premier roman de la série, c'est Pepe Carvalho, qui était Tatuaje, je me suis dit que peut-être que je pourrais le traduire. Donc j'avais ses coordonnées, je lui ai écrit, il m'a répondu assez tardivement, et on s'est vu à Barcelone. Et il est arrivé avec un petit garçon qui devait avoir 7-8 ans. Et c'est Daniel que nous allons entendre tout à l'heure. Voilà. Et il m'a dit, vous voulez me traduire ? Chiche.
Ouais.
Et chiche, j'ai mis 7 ans à trouver un éditeur.
Ouais. Alors, vous rentrez en France et puis on vous explique qu'avec la dictature franquiste, la littérature espagnole, ça ne peut pas exister.
Exactement, puisque de toute façon, la dictature, c'est l'empêchement de l'écriture. Parallèlement, comme j'aime à le rappeler, arrivé en France le boom latino-américain et tous les auteurs du boom latino-américain qui étaient venus en Europe étaient tous nés sous dictature et avaient écrit sous dictature. Donc il y avait quand même quelque chose d'idiot là-dedans.
Et d'autant plus que Montalban transposait ses intrigues à l'étranger. Et Tatuaje, précisément, se passe à Amsterdam, ce qui évite de choquer trop les autorités franquistes.
Oui, parce qu'il était interdit de parler de la police. Et donc, on pouvait parler d'un policier aux Pays-Bas, en Hollande, mais on ne pouvait pas parler d'un policier barcelonais. Donc, il a amené son intrigue là-bas. Et puis, le deuxième argument quand même des éditeurs français, et je tiens à le rappeler dans cette émission, c'est difficulté de vendre Barcelone aux Français.
Ah, alors ça, voilà. Ça a bien changé.
Je trouve que c'est votre émission est une réponse magnifique.
Donc ça se décante un petit peu en 1978 parce que Montalban reçoit le prix Planeta,
oui,
pour son livre Los Mares del Sur. Et là, vous arrivez du coup à trouver un éditeur. Évidemment, ce n'est pas un très gros éditeur.
Non, j'ai l'aide d'une amie qui est dans l'édition et qui me présente aux éditions du Sycomore, et une maison qui n'existe plus. Et bon, là, on prend le texte, et ils sont très enchantés, mais ça ne peut pas s'appeler Les Mers du Sud, traduction littérale, parce que Michel Deris, qui dirige une collection dans cette maison d'édition, a une collection qui s'appelle Les Mers du Sud. Donc ça s'appelle Marquise Sivu Rivage. Et pendant un an, il y a 2 articles dans la presse, en tout et pour tout. Et au bout d'un an, il reçoit le Grand Prix de littérature policière.
Mmh. Et là,
c'est l'ouverture.
L'ouverture en, ouais, France, mais aussi à l'étranger.
Oui. Ouais. Oui, parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est encore vrai, mais dans ces années-là, c'est-à-dire au début des années 80, les publications françaises sont vraiment vues à Francfort et ailleurs comme étant importantes. Et donc, il est, à partir du français, il est traduit dans une vingtaine de langues.
Et ça change sa vie. Vous lui avez changé la vie d'une certaine
oui,
manière.
Oui, il a changé la mienne.
Ouais. C'est donc une histoire d'amitié aussi oui. Entre vous et lui.
Oui, c'est une histoire d'amitié, de partage familiaux, parce qu'on a passé des vacances ensemble, on est parti en Irlande passer 15 jours en famille. Voilà, c'est un lien qui dépasse de la littérature et qui l'alimente aussi.
Et vous allez traduire beaucoup de ses livres, oui. La solitude du manager, Meurtre au comité central, Les oiseaux de Bangkok, Le pianiste, Happy End. Oui. On peut signaler qu'il y a aussi d'autres traducteurs,
oui,
Denise Larouti et Claude Bleuton, et puis aussi Georges Tiras, qui a traduit Tatouage avec vous. Bien, vous écoutez La Compagnie des auteurs sur France Culture et nous parlons de l'écrivain Manuel Vasquez Montalban. Je confonds avec son fils,
mais
qu'on
oui,
entendra tout à l'heure.
Son fils serait heureux.
Avec vous, Michel Gazier. On va parler un peu de sa biographie. Vous avez commencé à expliquer que c'était un enfant de la classe ouvrière de Barcelone.
Oui.
Sa mère est couturière. Son père est un militant communiste.
Oui.
On est communiste un peu de père en fils dans la famille.
Oui, son père a fait la guerre civile espagnole avec le PSUC, le Parti Socialiste Unifié Catalan, qui est d'obédience communiste. Et lui restera à ce parti jusqu'à la fin de sa vie, même s'il n'en partageait pas véritablement toutes les idées et toutes les idéologies. Mais il disait, s'ils ne veulent plus de moi, c'est à eux à me faire sortir, c'est à eux à me virer, mais moi je ne partirai pas. Et donc il est resté comme ça, avec ses pas de côté, avec sa propre vision des choses. Mais je crois que c'était une manière d'être, comment dire, fidèle à cette enfance pauvre. Mmh. Et il y a parmi ses nombreuses publications un roman auquel je suis particulièrement attachée, et je sais que pour lui aussi c'était un roman important, qui s'appelle Le pianiste, dont la deuxième partie se passe à Barcelone pendant la guerre, et les lieux, cette Barcelone-là, c'est la Barcelone de son enfance, où les gens pendant la guerre montaient sur les terrasses pour essayer de se parler, pour essayer d'échapper à l'horreur de la ville, pour se protéger aussi d'une certaine manière. Et en fait, ce quartier de la place del Padró à Barcelone, qui a beaucoup changé maintenant parce que c'était tout près du quartier malfamé aussi, del Barrio Chino, qu'on appelle plus El Barrio Chino, parce qu'on a évacué tout ce qui pouvait rappeler ce genre de choses.
Sauf dans la rue des voleurs.
Sauf dans la rue des voleurs. Mais donc voilà, ce quartier-là, c'est celui de son enfance. Et après, il y a tous ces quartiers près du port. Je me souviens du quartier de la Barceloneta, on était allé plusieurs fois, mais où il allait vendre, pour gagner sa vie, pour payer ses études, il allait vendre des assurances mort. C'est pas des assurances vie, c'était pour se payer, pour que les pauvres puissent avoir un lieu où dans un cimetière. Et donc il vendait ce genre de choses, et il nous montrait ces escaliers où il montait, parce que c'était des escaliers extrêmement étroits, c'était des demeures très vétustes, où il avait vraiment traîné ses basques pendant des années. Et même s'il vivait sur un grand pied, on va pas se cacher qu'il vivait bien.
Il avait décidé qu'il gagnerait autant d'argent que Simenon.
Voilà, exactement. Donc qui était son il aimait beaucoup, beaucoup l'écriture de Simenon. Et donc, bon, il gagnait très bien sa vie, mais il fallait qu'il y ait toujours, chez lui, c'était très important, ce lien basique, ce lien physique avec ce quartier, avec cette partie de lui qui n'a jamais disparu.
Alors son enfance, elle est marquée quand même par le fait que son père est en prison pendant 5 années, et c'est précisément les 5 premières années de sa vie.
Oui, bien sûr, puisque bon, il est dans le camp qui a perdu, donc il est en prison. Et lui, dès qu'il va commencer à être adolescent, et il va à son tour militer et à son tour aller en prison. Il sera emprisonné dans la prison de Lérida, où il va rester, je crois que c'est 2 ans. Et ça va le marquer à tous les points de vue, et en littérature, il va en sortir quelque chose, puisque un des personnages de la série Pepe Carvalho, le biscouter, qui est ce petit personnage qui fait la cuisine, qui est un type un peu rabougri, etc., a vraiment existé, c'est-à-dire que c'était rappelé comme ça, à raviver la mémoire de ce garçon pour lequel il avait eu de l'affection, parce qu'il ne faut pas oublier que dans ces prisons franquistes, c'était volontaire, on mélangeait les droits communs avec les politiques. Mmh. Et là, c'était un petit droit commun qui volait des voitures, et il existait, moi je n'avais jamais entendu parler de cette voiture, une voiture toute petite qui s'appelait un biscouter. Mmh. Et c'est pourquoi il l'a appelée de cette manière-là.
Alors, en prison, il va lire et puis il va écrire aussi. Entre-temps, il aura fait des études de philosophie, des études de lettres, des études de journalisme, ce qui, quand on vient d'un milieu très pauvre, est déjà, et il l'a dit énorme. Beaucoup, une chance très importante.
Oui,
mais son premier ouvrage, son premier livre, c'est de la poésie.
Oui.
Et la poésie, ce sera toujours, alors que on s'en souvient quand même davantage comme d'un auteur de polar. Mais pour lui, la poésie, c'était primordial.
Oui, la poésie, c'est la première expression. Et du reste, c'était amusant parce que le matin, il se levait de bonne heure et il écrivait, et il était dans son bureau. Et quand on entendait la machine à écrire, c'était qu'il écrivait un roman. Quand on n'entendait rien, c'est qu'il écrivait de la poésie. Mm-hmm. Parce que la poésie, il ne pouvait pas l'écrire à la machine. Il fallait qu'il l'écrive à la main. Ça passait par la main. Ça, comme il disait, ça venait directement du cœur. Et c'était vraiment ça. Ce lien avec les origines, avec sa culture. Il a beaucoup aimé la culture populaire. Il l'a beaucoup réintroduite dans sa poésie. Il a aussi traité de la poésie comme d'une arme, comme d'une manière de protestation. Et il a notamment écrit un recueil de poèmes qui n'a jamais été traduit. Je le ferai un jour, peut-être. Je lui avais promis, donc peut-être que je le ferai. Qui s'appelle Praga, et qui est sur Prague, la ville. Et il fait un parallèle entre la ville de Prague et la ville de Barcelone, occupées l'une et l'autre. Mais l'une par les communistes, quand même. Lui qui était communiste.
Il était communiste, mais il a travaillé pour la CIA. Il a travaillé pour les Américains. Ça ne lui posait pas un problème, ça ?
Mais il n'a jamais travaillé pour la CIA. Son personnage a travaillé pour la CIA, bien sûr. Mais c'est toute l'ironie et tout l'humour de Manolo. C'est dire que on est dans un monde moderne et tout cohabite. Quelqu'un peut devenir un personnage comme ça, un fouineur, comme il dit, son Pepe Carvalho. Il peut avoir des idées de gauche et avoir été dans la CIA. Évidemment, lui, il n'a jamais été dans la CIA. Mais c'est une sorte de fantasme, finalement.
C'est un fantasme. Et puis, il y a cette idée du double. Pepe Carvalho, Manuel Vázquez Montalbán, qui fait qu'à un moment donné, volontairement ou non, les deux se sont rejoints.
Oui, les deux se rejoignent, et les deux se rejoignent aussi dans la localisation dans la ville. C'est-à-dire que Pepe Carvalho, il était originaire de la ville basse, des quartiers populaires, et il va habiter à Valvidera, c'est là où habite Montalbán. Et en fait, la maison où habite Montalbán, où habite Anna maintenant, sa femme, il y a en face une maison moderniste, et c'est la maison qu'il décrit, qui est celle de Pepe Carvalho.
Alors c'est un ancien militant du Parti communiste. C'est un ex-agent de la CIA, c'est quelqu'un qui est galicien, est un amant relativement passif, en même temps bien sûr un gourmet très exigeant, on va revenir sur tout ça. Mais ce qui est assez frappant dans le personnage, c'est que c'est un privé, et finalement un privé de second ordre. Un type qui n'a pas de grandes responsabilités, et qui au fond est marqué par le monde dans lequel il est, mais sans bien comprendre en fait la totalité de ce monde.
Carvalho, c'est un prétexte technique de technologie littéraire. De tous les romans, il a besoin du point de vue du roman. et d'une architecture, de l'architecture des romans. Alors, les romans policiers, il a les points de vue, c'est-à-dire les privés. Les privés, c'est les voyeurs de la réalité. Et il présente ou offre une complicité avec le lecteur. Et pour ça, Carvalho, toutes les caractéristiques de Carvalho, c'est ambiguïté d'être ex-communiste, ex-agent américain, etc., signifie la possibilité de construire un petit Frankenstein. C'est-à-dire un petit monstre de laboratoire idéologique, d'expérience, avec beaucoup de un regard très complexe, très pluriel sur la réalité. Sa propre contradiction personnelle devient la possibilité de regarder d'une manière très différente la réalité.
Un entretien avec Antoine Spire. Alors, ce personnage de Carvalho, c'est un personnage extraordinaire, un ancien rouge qui démonte les manigances politiques, qui se repaît de festins, qui est même l'amant d'une prostituée du Raval. Et vous avez passé, Michel Gazier, beaucoup de temps avec ce personnage. Il doit être assez important pour vous maintenant.
Oui, j'ai passé beaucoup de temps avec ce personnage. Et c'est un personnage dont il disait aussi que s'il avait vécu, lui, Montalban, au XIXe siècle, il n'aurait pas eu besoin de créer Pepe Carvalho parce que le narrateur était omniscient. Mais qu'au XXe, XXIe siècle, on ne pouvait plus avoir un narrateur omniscient. Donc il fallait inventer un personnage qui soit ambigu comme pouvait l'être un narrateur et qui soit, comment dire, à qui toutes les portes soient ouvertes parce que c'est un fouineur et qu'il peut passer partout. Donc, de ce point de vue-là, Pepe Carvalho est un épigone de Montalban et au sens le plus, littéraire de la conception littéraire du XIXe siècle, du roman français en gros.
C'est un personnage qui va peut-être un peu cannibaliser son auteur. On sait moins qu'il a aussi écrit Montalban des essais assez nombreux et finalement on garde surtout en tête le personnage de Carvalho. Est-ce que c'était un souci pour lui ou pas du tout ?
En fait, c'est un personnage récurrent et au départ, il ne pensait pas qu'il le garderait aussi longtemps.
C'est en 1972 qu'il l'invente pour la première fois dans J'ai tué Kennedy ou Les mémoires d'un garde du corps.
Exactement. Mais disons qu'après le quatrième ou le cinquième numéro, il m'avait dit qu'il en avait assez, que c'était difficile, etc. Et puis il a eu un gros contrat. Et dans ce gros contrat, il devait rendre d'autres.
À la Simenon, encore une fois.
À la Simenon, absolument. Alors, il n'en était pas très fier. Je crois qu'il ne le disait pas de façon comme ça à tout le monde. Mais dans le fond, ça lui a permis aussi de garder comme ça cette place particulière. Je sais qu'il était lassé du personnage à certains moments. Et je peux, quand je le lis, retrouver les passages où il en a un peu ras-le-bol.
Donc Carvalho est présent dans 23 romans, nouvelles et scénarios. Donc ça fait presque un roman au long cours si on les lit les uns à la suite des autres.
Oui, et ils sont de plus en plus désenchantés. C'est-à-dire qu'on part avec quelque chose d'un peu musclé. Enfin, on va aller voir ce qui se passe. Et c'est vraiment le personnage qui va observer, radiographier la transition. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'à part le premier Carvalho, le tatouage, les autres vont...
Qui se passe donc à Amsterdam, les autres sont en Espagne.
Les autres sont en Espagne et Franco est mort. Donc on n'est plus dans la même économie politique. Donc il y a une plus grande liberté. Donc ça n'est, on ne va plus chercher les mêmes choses. Il va se payer la tête du Parti communiste dans Meurtre au comité central. Ça, c'était vraiment son envie, son désir. Et il fait un roman qui est d'une drôlerie, qui est un roman à clé où tout le monde s'est retrouvé. Enfin, les gens qui étaient signalés se sont reconnus. Et il ne s'est pas fait que des amis, bien évidemment. Mais il y a une autre dimension qui a été extrêmement importante et assez vite. C'est la dimension du voyage. Qu'est-ce que c'est qu'aller ailleurs ? Qu'est-ce que c'est que l'ailleurs ? Dans les mers du Sud, l'ailleurs, les marquises, puisque les mers du Sud, on pense que l'homme qui a été assassiné est parti en réalité aux marquises. Les marquises, c'est le rêve de Gauguin. c'est quoi ? C'est prendre le métro, aller jusqu'au bout d'une ligne et se retrouver dans un quartier extrêmement populaire, extrêmement dégradé, un quartier où on ne peut pas vivre ou alors où on vit tellement mal. Donc l'ailleurs, il est au bout d'une rame de métro où on peut aussi prendre un avion pour faire le tour du monde, c'est Millennium. Donc voilà, il y a cette interrogation sur le voyage et sur l'ailleurs et qu'est-ce que ça veut dire aller ailleurs ?
Et aller ailleurs, c'est parfois simplement déjeuner avec vous, Michel Gazier, et votre mari, Pierre Lepape, à Barcelone,
oui.
Et puis prendre la vieille Mercedes blanche
oui.
de Montalban et faire le tour de la ville, tout simplement.
Oui, faire le tour de la ville qui va disparaître. C'est-à-dire aller voir des lieux dont il sait et dont il nous dit que c'est la dernière fois qu'on les voit comme ça, parce qu'il va y avoir les Jeux Olympiques, qu'on va ouvrir des routes, qu'on va redistribuer les quartiers de la ville, qu'on va redessiner la ville, et que cette ville qui est la sienne, celle sur laquelle il a écrit des livres directement géographiques, il a écrit un livre qui s'appelle Barcelone au pluriel, ses romans, ne va plus exister. Et donc, on fait ce tour de ville, et c'est un grand souvenir parce que il s'y raconte pendant ce tour de ville. Il y a des silences qui sont aussi éloquents que des paroles, parce qu'il y a énormément d'émotions. Et bien sûr, je ne parle pas de ce que j'ai raconté, à savoir que ces messieurs fumaient le cigare
dans la
et qu'ils m'avaient donné mal au cœur.
Et que vous sortiez d'un repas extrême.
Extrême.
Un repas rablaisien.
Absolument.
Mais lui, si vous arrivez à Calais à un certain moment, pour Montalban, il n'y a pas de
non.
moment où on s'arrête de manger. Enfin,
non.
En tout cas, il était dans une phase
il était dans une phase expansionniste.
Alors, vous l'avez déjà un peu dit, mais la série des Pepe Carvalho, c'est une fresque de Barcelone, puis c'est une fresque politique et une fresque sociale en même temps.
Oui. Oui, parce qu'en fait, bon, l'histoire et la géographie sont intimement liées, c'est-à-dire que la géographie de Barcelone raconte son histoire, ou en tout cas c'est la manière dont il conçoit sa vision de la Barcelone de ses romans. Ce que j'ai un peu dit, effectivement, les quartiers bas, les quartiers populaires, et la ville haute, celle qui domine, celle d'où on peut voir la mer, malgré les fumées, malgré la pollution qui est assez importante sur la ville. Mais il a choisi de vivre sur les hauteurs de la ville et il y repose.
Ce qu'on entend quand même en lisant la balade en voiture que vous racontez donc dans le livre Barcelone, qui vient de paraître chez Bouquin Lafond, c'est la mélancolie du personnage.
Oui.
Une mélancolie qui semble vous atteindre aussi, au moins quand vous êtes à son contact, et qui semble s'étendre dans la ville qui devient une ville mélancolique, parce que finalement, sa ville à lui, c'est une ville qui a en partie disparu.
Oui, c'est une ville qu'on ne va retrouver que dans les romans, finalement, et dans les souvenirs, dans son imaginaire, dans le mien aussi, parce que c'est une ville que j'ai bien connue. Faisant des études à Montpellier, Barcelone était plus près de Montpellier que de Paris, donc c'était le lieu où aller voir des spectacles. Voilà, la capitale. C'est là où la littérature est importante, finalement, parce que même si les traces géographiques dans l'espace n'existent plus, la littérature est là, qui nous raconte une histoire. Et ce qu'il est arrivé à faire, c'est arriver à dire Barcelone dans toute son ampleur, jusque dans ses étranglements finaux, jusque dans ses malaises. Mais il y a une Barcelone de Montalban et de Pepe Carvalho comme il y a une Irlande, un Dublin de Joyce.
Mmh. Et en 2003, de façon très inattendue, à l'aéroport de Bangkok, Manuel Vázquez Montalban va mourir.
Mmh. Oui, en fait, inattendu, et c'est plus compliqué parce qu'il avait subi une intervention extrêmement grave avant, je ne sais pas, six mois, peut-être huit, avant, je me souviens, il m'avait appelé en me disant « peut-être que je vais mourir, alors je t'appelle, on me fait un triple pontage
».
Et il s'est sorti très bien de ce triple pontage, mais il fallait vraiment qu'il fasse attention. On ne peut pas prendre l'avion aussi facilement, il faut prendre des précautions, et lui n'en prenait pas. Et il avait écrit un poème qui s'appelait « Mourir à Bangkok ». Nous l'avons, Anna, son épouse, l'a lu à sa crémation. Et moi, j'avais traduit Les oiseaux de Bangkok. Et c'est comme si Bangkok avait été le lieu où il savait qu'il finirait. C'est quelque chose de très étrange. Je ne connaissais pas le poème. Je l'ai découvert le jour de l'incinération.
Merci beaucoup, Michel Gazier. Je rappelle qu'on peut lire votre texte sur Montalban dans le volume Barcelone qui vient donc de paraître chez Robert Laffont. Je rappelle également que votre dernier roman s'appelle Silencieuse. Vous l'avez publié en 2017 aux éditions du Seuil. Tout de suite, c'est en compagnie des revues.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
En compagnie des revues, avec vous aujourd'hui Alexis Broca du Nouveau Magazine Littéraire. Bonjour Alexis.
Bonjour Mathieu, bonjour Michel.
Vous venez nous parler du numéro de mars du Nouveau Magazine Littéraire qui sort précisément aujourd'hui.
Aujourd'hui, voilà. Je vais vous parler du numéro de mars et surtout du dossier qui traite de la figure drôle et terrifiante et théâtrale du Père Ubu. Ubu, vous le connaissez tous, hein, c'est ce personnage ventripotent de la pièce d'Alfred Jarry qui prend le pouvoir en Pologne et qui entreprend de massacrer les nobles, les fonctionnaires, les paysans. Ubu, c'est un ventre jamais rassasié, de là son goût pour l'expression « merdre » et son obsession de la pompe à finance. Et c'est aussi le maître de la machine à décerveler.
Finance, PHY.
PH, bien sûr, voilà, selon la bonne orthographe de Jarry. Ubu, bah, vous le connaissez, il est grotesque, il est scatologique, il est comique et il est terrifiant. Et à ce titre, eh bien, il préfigure les dictateurs mégalomanes et meurtriers du siècle qui viendra, d'Amin Dada à Kim Jong-il, mais aussi les délires financiers, PHY, du libéralisme dérégulé. Alors, on s'intéresse bien sûr à l'énigme littéraire que pose Ubu. Comment est-ce qu'une bande de lycéens rennais de la fin du 19e siècle, formée d'Alfred Jarry mais aussi des frères Morin, voulant se moquer de leur professeur de physique, Monsieur Hébert, en sont venus à créer un personnage qui est devenu un mythe, et un mythe toujours actif, comme en témoigne la popularité de l'adjectif ubuesque. Alors, on a notamment un article de Paco Mthielman, l'essayiste, qui nous explique pourquoi tout le monde aime Ubu. Et bien, tout le monde aime Ubu parce que tout le monde aime savoir qu'il existe plus bête et plus méchant que soi.
Voilà, c'est le parfait miroir.
C'est une bonne raison, en effet. Et puis, dans le dossier, on s'attache aussi à resituer Ubu, dans le contexte littéraire et politique de son temps. On oublie souvent que l'époque d'Ubu, c'est l'époque des attentats anarchistes. Et en effet, Ubu est une sorte de bombe potache qui éclate au visage de la littérature de son époque. Nous avons aussi un article du psychanalyste Jean-Claude Lyodet qui s'intéresse à la personnalité sadicanale d'Ubu. Et en effet, comme le petit enfant, Ubu a tendance à garder son cher patrimoine dans sa trappe à finances. Et par ailleurs, Ubu, en sadicanal exemplaire, est un moteur à deux temps. Il fonctionne par rétention et par explosion. La rétention, c'est la finance, toujours PH. Et les explosions, ce sont ses formidables colères. Et puis nous nous intéressons aussi aux résonances d'Ubu dans l'actualité, notamment avec Arnaud Bertina, qui est un romancier engagé à gauche, qui nous compare l'avidité délirante d'Ubu à celle du libéralisme. Et en effet, lorsqu'on lit que l'agence Bloomberg nous annonce que la fortune des 500 personnes les plus riches du monde a progressé de 1000 milliards de dollars au cours de cette année, nous avons l'impression de rejoindre là la goinfrerie d'Ubu. Et Arnaud Bertina s'interroge d'ailleurs sur notre emploi de cet adjectif ubuesque. Et il écrit « À désigner Ubu Trump ou Ubu Kadhafi comme des aberrations, on ne fait que se rassurer. Ubu et sa femme sont la maladie du pouvoir et tout ce qui le fait grotesque n'est qu'une hypertrophie de ce qui caractérise le pouvoir politique qui va peut-être toujours vers ça. En somme, Ubu n'est pas une maladie ou une perversion, une déviation du pouvoir, c'est le pouvoir poussé dans l'extrême de sa logique, dans ses derniers retranchements. » Et sans doute, est-ce une des vraies raisons de sa pérennité parmi nous.
Est-ce que Michel Gazier, vous savez si Montalban avait lu Le Père Ubu et s'il en pensait quelque chose ?
Je ne sais pas s'il l'avait lu, mais sûrement il avait une culture française absolument formidable. Et en tout cas, c'est un personnage qui lui va
qui lui
bien.
Qui lui convient assez bien.
Sans doute parler. Oui.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre, très rapidement, dans le magazine littéraire qu'on va trouver aujourd'hui?
On a notamment un grand ensemble, un grand dossier de couverture, comme on l'appelle, sur mai 68. On a commandé un sondage, en fait. On voulait simplement connaître l'opinion des Français sur mai 68, puisque un vieux lieu commun dit que mai 68, même ceux qui l'ont fait ne veulent plus en parler.
Ah oui.
Et en fait, non, il se trouve que...
Ils aiment bien en parler de temps en temps, les 68 tard de mai 68.
Oui, c'est vrai, pour dire ensuite qu'ils ont fait des bêtises et qu'aujourd'hui, ils sont revenus à la raison. Mm-hmm. Enfin, en tout cas, ceux que je connais. Voilà. Et là, au contraire, on a une... notre sondage montre bien que mai 68 reste un événement plébiscité hein, par les Français, comme on le met en couverture, et spécialement d'ailleurs par les jeunes générations.
Bon, je suis sûr que vous reviendrez pour nous en parler d'ici environ 15 jours.
Ah, je serai ravi.
Merci beaucoup. Merci. Alexis Broca, à bientôt. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Et dans la seconde partie de cette émission, eh bien, nous nous transportons jusqu'au cœur de Barcelone avec le fils de Manuel Vázquez Montalbán, Daniel, qui nous a montré, vous allez l'entendre, quelques-uns des lieux préférés de son père. Daniel Vázquez, bonjour. Vous êtes
bonjour.
Donc le fils de Manuel Vázquez Montalbán, et avec vous et avec Pierre Ducrozet qui va interpréter vos propos. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Nous allons nous promener dans le quartier d'enfance de votre père, dans le Raval. Il faut dire que vous êtes écrivain, journaliste comme votre père, spécialiste de critique gastronomique comme votre père aussi, et vous avez écrit un livre sur votre père qui n'est pas traduit en français, qui s'appelle Recuerdos sin retorno, paru aux éditions Peninsula. Et sur la couverture de ce livre, on vous voit enfant avec votre père. Oui. Pourquoi avoir choisi cette photo et qu'est-ce qu'elle signifie pour vous?
Porque era una foto familiar que tiene mi madre en casa y es una foto muy entrañable donde estamos los dos en una situación muy cómplice, felices y en una especie de duelo divertido y en verano, que es una buena estación para pasar juntos ratos agradables con el padre, ¿no?
J'ai choisi cette photo parce que c'est une photo familiale qui est dans la maison de ma mère, et c'est une photo tendre et jolie sur la complicité qu'il pouvait y avoir entre mon père et moi.
Alors c'est une photo où vous avez des pistolets.
Oui.
Oui.
Sí, sí, una foto de pistolas de juguete, todas.
Je pense qu'il jouait au cowboy, je pense que c'était l'idée de jouer au...
Pero era una época que no había tantas manías en estas cosas, de si los hijos podían jugar con pistolas de juguete, y bueno, había... Con mi padre jugábamos mucho, y bueno, como era una oportunidad que tenía él para un poco para volver al mundo de la infancia, y...
C'était une époque dans laquelle on jouait plus facilement au revolver avec les enfants, c'était pas un problème. Et il dit qu'il jouait beaucoup avec son père, ils étaient vraiment complices comme ça. Et pour lui, Vázquez Montalbán, c'était une manière de retourner au pays de l'enfance.
Alors on est ici, en face de la maison où est né votre père. Il y a une plaque d'ailleurs sur la maison.
Aquí nació mi padre y mi abuela también, en esta casa, en la misma casa. Sí.
Ma grand-mère aussi est née dans la maison.
Vous nous décrire un petit peu le quartier?
Ha cambiado mucho. Es un barrio de sobre todo de inmigrantes y pero ha ido variando la nueva inmigración. La inmigración de mi abuela era inmigración murciana, inmigración que se adaptó a la ciudad, y con mi abuela, por ejemplo, yo hablaba catalán. Pero ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Ahora es un barrio también de inmigración, también a la inmigración musulmana. Y es un barrio que ha ido cambiando. Está más cuidado que antes, eso sí.
Es un quartier que ha changé beaucoup. Es un quartier d'immigration. Mais d'immigration très différente. L'immigration de ma grand-mère, c'était celle de Murcia, donc sí. Du sud de l'Espagne. Et maintenant, c'est une immigration différente de pays asiatiques, africains, sí. Sud-américains.
Sí. Y es un barrio, bueno, antes se llamaba el Distrito Quinto.
Avant, ça s'appelait le 5e district, oui. Le 5e quartier.
Y ahora, cuando entramos en la posmodernidad, se cambió el nombre por el Raval.
Et maintenant, quand on est rentré dans la postmodernité, on l'appelle le Raval.
Mais alors justement, votre père trouvait que Barcelone avait un peu trop changé à son goût. Il en parlait assez souvent.
sí ha cambiado mucho. De todas formas, sí ha cambiado mucho del barrio de su infancia.
Oui, donc il dit aussi que les gens qui vivent dans le quartier en se reconnaissant aussi qu'il a changé un petit peu au niveau, par exemple, de la salubrité, disons, c'était peut-être un peu trop à un moment donné.
Oui, mais il disait Barcelone n'est plus.
Bueno, sí, hay un punto también. La Barcelona canalla de los 70 ya no existe.
Donc la Barcelone un peu canaille, un peu comme ça, délinquante des années 70, elle n'existe plus.
Pero todas las ciudades que pasan un proceso de olimpismo, normalmente siempre acaban cambiando.
Toutes les villes qui passent par les Jeux Olympiques, par l'olympisme, sont changées et nettoyées, entre guillemets, souvent.
Est-ce que l'enfance de votre père, ici dans ce quartier, vous pouvez nous la raconter un petit peu? Et aussi, est-ce que vous savez comment il en est venu à l'écriture?
Siempre hay un punto de retorno al país, a la ciudad, a su calle, a su barrio, en todas las novelas. Desde Carballo, que es como una especie de otro yo, un alter ego de Montalbán, hasta sus novelas como El pianista, donde toda la parte central de la novela sucede en los tejados de esta calle.
Dans tous les romans depuis la série des Carvalho, qui est une sorte d'alter ego de Montalbán, jusqu'à ses romans comme Le pianiste, il apparaît ce Barrio Chino, il est tout le temps, enfin le Raval, il est tout le temps en filigrane.
Por ejemplo, hay un recuerdo poético de mi padre que siempre tiene, que es desde el balcón de esa casa ver llegar a su madre con un trozo de pan bueno y una bolsita de aceitunas negras. Este es el recuerdo más entrañable que tenía mi padre en su infancia.
Le plus beau souvenir que Montalbán avait de son enfance, c'était du haut de cet immeuble, du toit, voir arriver sa mère sur la place qui est juste à côté, avec un morceau de pain, de bon pain, et des olives.
Sí. Y nada, del barrio, el único chico que entró a la universidad fue mi padre.
Et de tout le quartier, le seul enfant qui est rentré à l'université, c'était mon père.
Sí. Y recuerdo, me contó mi padre que el día que entró en la facultad, vio escondido detrás de una columna a su padre, espiándole.
Le jour où il est rentré à l'université, il a vu derrière une colonne son père, son propre père qui l'espionnait.
C'est parce que era un triunfo para la familia que el chaval entrara a la universidad. Era como un triunfo casi grandioso para una familia tan humilde.
Parce que c'était vraiment un grand, ça représentait vraiment un grand triomphe pour une telle famille d'avoir un enfant qui allait à l'université.
Et maintenant, vous êtes tous journalistes, écrivains et critiques gastronomiques. C'est ça le triomphe, non?
Non, c'est triomphe ou la derrota.
Il dit non, c'est plutôt une défaite.
Quizá el triunfo esté mi hijo mayor que quiere ser ingeniero industrial.
Ah, peut-être moi. Peut-être la victoire, ça viendra de mon fils qui veut être ingénieur industriel. Enfin, une chose sérieuse.
Le langage gastronomique, l'énumération de procès gastronomiques, pour moi, est fascinant. Alors, j'aime beaucoup les défis. Le défi d'une longue description d'une recette. Offrir au lecteur la convention littéraire.
Alors justement, ces recettes qui sont des haltes littéraires, ce sont des recettes que vous avez essayées avant de les inclure dans le roman?
Oui. Toujours. Il n'y a nulle recette de roman de Carvalho que je ne fais pas. Toutes les recettes sont de mon expérience, appartiennent à mon expérience.
Alors, je disais tout à l'heure que c'est une expérience langagière. Et c'est comme ça, par l'expérience langagière, que se fait le lien avec la sexualité. Le lien qu'il y a entre la gastronomie et la sexualité se fait par le langage, non?
Oui. Oui, et le plaisir, c'est la culture du plaisir. Et je crois que notre génération a revendiqué le plaisir. Sur le double aspect, la sexualité et le plaisir plus innocent et plus facile et plus possible que c'est la gastronomie.
Alors Daniel Vasquez, on se trouve ici devant la Casa Leopoldo, c'était le restaurant qui était le fief de votre père, il y allait beaucoup et c'est évidemment très important parce que votre père, tout comme son personnage de Pepe Carvalho, aimait beaucoup manger.
Oui. cocinar.
Et cuisiner. C'est très important aussi.
Sí. Sí, bueno, Leopoldo es un... El... Aquí te das cuenta donde la gente a veces no separa realidad y ficción, ¿no?
Là, tu te rends compte de comment les gens ne séparent pas la réalité et la fiction, souvent.
Mucha gente venía, había gente que venía aquí y preguntaba dónde se sentaba Pepe Carvalho.
Beaucoup de gens demandaient, venaient ici, me disaient où s'assoit Pepe Carvalho quand il vient.
Y cuando murió la antigua propietaria Rosa Gil, encontró a uno que había robaba una fotografía de mi padre, se la llevaba a casa y lo encontró aquí en la salida ya con la fotografía. Es un sitio muy emblemático y muy que está muy ligado a la literatura de Manolo.
C'est vraiment un lieu très très lié à la littérature de Barcelone. Après la mort de son père, ils ont retrouvé quelqu'un qui était en train de partir avec les photos de Manolo, tellement c'était important pour lui.
Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce restaurant-là?
Es un restaurant de cocina tradicional. Lo que sería la antigua cocina, por ejemplo, muy relacionado con la cocina popular sería, ¿no? Pescados al horno. Capipota, que sería como los callos.
C'est un restaurant de cuisine traditionnelle, hein, donc vraiment la cuisine catalane traditionnelle. Donc beaucoup de poissons, de tout ce qui est la terre et la montagne, la terre et la mer. Hein, c'est vraiment la cuisine catalane.
Ah, no es barato el restaurante. c'est popular, pero no es
il n'est pas bon marché, hein, spécialement.
Ah, mais, d'accord. Mais, pourquoi est-ce que Pepe Carvalho était-il si attaché à la cuisine? Quelle est l'importance de la cuisine pour ce personnage?
Porque hay una cosa de la cocina es memoria muchas veces, ¿no? También como Carvalho es como siendo, yo siempre digo que Carvalho, yo siempre he hablado de Carvalho como mi tío de América un poco.
Parce que la cuisine c'est aussi la mémoire. Moi j'ai toujours parlé de Pepe Carvalho comme mon oncle d'Amérique.
Sí, era como cuando llegaba Carvalho mi padre se iba un poco, ¿no?
Quand Carvalho venait, mon père se partait. C'était sa manière un peu de partir.
Entonces utilizaba Carvalho para contar cosas que la marca Vázquez Montalbán, porque se había convertido en una marca en muchas cosas ideológicas, no podía decir.
Il utilisait Carvalho pour pouvoir parler de toutes ces choses dont lui, en tant que Montalbán, la marque Montalbán qu'il était devenu, il ne pouvait pas parler. Il était très marqué par, donc c'était un espèce de libre exemple.
Puede ser tan iconoclasta, ¿no? Tan iconoclasta, ¿no? Pues sus reflexiones sobre la existencia, sobre el Partido Comunista, sobre muchas cosas.
Bueno, voilà, por ejemplo, sus reflexiones sobre la vida, sobre el Partido Comunista, etc. Là, il pouvait être iconoclaste.
Donc, c'est une.
Y la cocina, en el fondo, también era mi padre. O sea, estaba allí. Que era un momento de reflexión, de tranquilidad, de sobre todo de transformación de producto, ¿no? De o como él decía, por ejemplo, la resurrección del bacalao, por ejemplo, ¿no? Que era convertir una cosa en algo sublime. El tiempo de pensar, el tiempo del sofrito es y sobre todo la comida blanda al cerebro, ¿no? La posibilidad de conversar. La sobremesa, estas cosas.
Alors pour lui, la cuisine, c'était tout. C'était plein de choses. C'était le temps de la réflexion. C'était le temps de la transformation des éléments. Par exemple, il parlait beaucoup de la résurrection de la morue. Pour lui, c'était comment la morue devenait autre chose que ce qu'elle est. C'était aussi, bien sûr, le moment de la convivialité, le moment de la conversation, de parler. C'était très important pour lui.
Et quand il était déprimé, je crois qu'il aimait votre père, tout comme Carvalho d'ailleurs, se mettre en cuisine.
Sí, o para montar un punto de pausa en la escritura también.
Sí, oui, c'était aussi pour faire pour une pause, hein, une pause dans l'écriture aussi.
Ses phrases favorites, c'était « Hay que beber para olvidar », cosas de estas.
Une de ses phrases favorites, c'était « il faut boire pour oublier », bien sûr.
Et parfois, votre père jugeait que son personnage de Carvalho, il n'était pas très fin gastronome, qu'il ne savait pas accorder les plats avec les vins.
A veces él decía que Carvalho no era tan bueno gastronómico, que no sabía hacer
él lo decía.
Entre la corde, entre los vinos, bueno, y
siempre,
la comida.
Siempre había un pique entre Carvalho y mi padre.
Y ha toujours eu des petites piques entre Carvalho y Montalbán. Sí, sí.
Hay una obra de teatro que escribió Manolo, que es Carvalho hablando sobre el escritor. Y no hay piedad, por cierto.
Il a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Carvalho, ouais. Donc le personnage, parlant de l'écrivain. Donc c'est le retour du bâton.
Y no hay mucha piedad.
Et il n'a pas beaucoup de pitié pour l'écrivain. Là, c'est une chose que moi, je rajoute. Il y avait vraiment toujours un jeu. Pour lui, la littérature était un jeu. Donc, par exemple, de faire parler son propre personnage de lui-même, ça faisait partie du grand jeu qui était la littérature pour lui.
Alors il y a en français traduit un livre qui s'appelle Les recettes de Carvalho. Ça a été traduit aux éditions Christian Bourgois. Donc c'est des extraits de textes de votre père. Et puis derrière il y a la recette qui permet de faire le plat auquel il est fait référence. Je vais vous lire un tout petit extrait de son livre Histoire de famille. Ça s'appelle La soupe à la façon d'Alcoy. Il déjeuna au restaurant à l'angle des rues Santa Amalia et de la Serra, le Can Luis. Il se rappelait encore le vacarme. C'est à côté d'ici, le Can Luis ?
Si.
Ouais. Il se rappelait encore le vacarme de la fusillade entre gangsters et policiers qui avait coûté la vie à l'ancien propriétaire dans les années 40. Il demanda une soupe à la façon d'Alcoy et une épaule de chevreau rôti et le repas fut excellent. Carvalho lui rendit hommage en allumant un cerdane, cigare dominicano-catalan, que produisait un négociant en tabac, un Barcelonais un peu fêlé, installé à Saint-Domingue. Et donc après, il y a la préparation pour 4 personnes, 15 minutes, cuisson, 1h30, 500 g de tête de cochon, un pied de cochon, une queue de cochon, vous avez beaucoup de cochons, 3 boudins à l'oignon, 2 boudins blancs, etc.
Ça donne,
etc.
Fin, ça donne fin à ton histoire.
C'est amusant, votre livre.
Bueno, sí, siempre había su comandante Marcos. El subcomandante Marcos siempre decía que a veces tenía que dejar de leer Carvallos porque le entraba un hambre terrible y no había muchas posibilidades de comer por la selva.
Le subcomandante Marcos, avec qui Montalbán s'est lié dans ces dernières années, disait souvent je dois arrêter de lire des Carvallos parce que ça me donne trop faim et j'ai pas assez à manger dans les collines du Chiapas. Giant steps are what you take walking on the moon. I hope my legs don't break walking on the moon. We could walk forever walking on the moon. We could live together walking on, walking on the moon.
Alors, dernière étape, Daniel Vasquez Montalbán, ici au marché de la Boqueria. Tout le monde connaissait votre père ici.
Sí, sí, padre,
sí.
¿No?
Ha cambiado un poco el mercado este. Era un mercado más de barrio antes. El mercado central de Barcelona, pero más de barrio.
Il a changé un peu le marché. Il est... sí. Avant, c'était vraiment le marché du quartier. Maintenant,
después de las Olimpiadas, se convirtió en un sitio turístico. Y mucha gente que tenía la relación con la ciudad ha cambiado un poco.
Après les Jeux Olympiques, c'est devenu un objet de touristique, disons. Hein, et la relation des habitants de Barcelone avec son marché a changé.
Cabe decir que en cada barrio de Barcelona hay un mercado central muy bueno.
Dans chaque quartier de Barcelone, il y a vraiment un marché central très très bon.
Ça représentait quoi pour votre père cet endroit?
La Boquería era como un sitio mágico, ¿no? Para un chaval que nació en el Raval, todas las cosas significaban un viaje imaginario a algún sitio, ¿no?
C'était vraiment un endroit magique pour lui. Et pour un enfant du Raval, tous ces lieux-là étaient des lieux d'évasion, des lieux magiques.
Le cinéma, par exemple, non ? Le cinéma, permettait viajar. Y evidentemente los productos culinarios también, ¿no? Viajar por el mundo, probar cosas, alimentar la imaginación, los sabores, los gustos, todas estas cosas eran importantes.
Tous les produits qu'il pouvait trouver ici, c'était aussi des objets de voyage, des goûts, des arômes, ça le faisait voyager, tout ça.
Sobre todo la posibilidad de disfrutar, ¿no? Que eso es importante. Después, sobre todo una familia, ¿no? Mi padre, por ejemplo, estuvo en la cárcel y todo lo que significaba disfrutar de la vida para él era muy importante.
Y una cosa que es importante, es significaba el plaisir. Y el plaisir, c'était una cosa central. Ils avaient souffert, hein, le père avait été en prison, voilà. Mais le plaisir était là, était central.
Le plaisir et l'humour aussi, parce que quand on lit les livres de votre père, on sent constamment cet humour et on a très souvent envie de rire ou de sourire. Ah,
bueno, es un poco ese punto de saber poner la distancia, ¿no? Ponerte a una distancia las cosas. No ser tan profundo a pensar que era una persona que era un intelectual, lo que significaba que todo lo que escribía él tenía como consecuencias que a la gente le invitaba siempre a pensar sobre lo que era la vida. Siempre había un punto de necesidad de distanciarse incluso de uno mismo a partir del humor inteligente siempre.
Tout ça, ça a un rapport avec la distance. Pour lui, il fallait toujours mettre la bonne distance entre les choses. Donc, malgré le fait que c'était un intellectuel, c'était quelqu'un qui réfléchissait profondément sur toute une suite de choses, il utilisait l'humour comme une marque de distance aussi, un petit peu.
Est-ce que vous voulez nous emmener manger quelque part, peut-être dans le stand qui était celui que votre père préférait?
Ici, il y a un restaurant, un sitio, qui est une barra qui se come muy bien. Que ahora no recuerdo el nombre, pero el propietario es igual que Totò, el actor italiano.
Sí, no es el Pinocho.
El Pinocho.
El Pinocho. Eso, Pinocho.
Se come muy bien el Pinocho.
Ouais, c'est un endroit où on mange debout au comptoir, c'est là, tout à l'entrée de la boquerie, on mange très très bien là-bas. Je pourrais vous emmener là si vous voulez.
C'est le moment de vous dire au revoir et merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à vous, Pierre Ducrozet. Je propose que on s'enfonce un peu dans ce marché.
Merci.
C'est donc en hommage à Pepe Carvalho et son créateur que nous sommes allés respirer les odeurs des bons produits de la Boqueria. Merci encore à Michel Gazier pour sa présentation en première partie de cette émission de la vie et de l'œuvre de Manuel Vasquez Montalban, qu'elle nous a permis par ailleurs de découvrir ici en France grâce à ses traductions. Son dernier livre s'appelle Silencieuse. Il est paru en 2017 aux éditions du Seuil. Elle a également participé à l'ouvrage sur Barcelone dont nous parlons cette semaine par un article intitulé « Barcelone, dernier jour ». Et puis je signale aussi que Daniel Vasquez a publié un livre sur son père chez Peninsula en 2013. Il n'est pas encore traduit en France. Demain, nous retrouverons les auteurs catalans Javier Cercas et Rafael Argullol pour parler de la question de l'indépendance, de Gaudi, de l'esthétique de Barcelone et aussi de littérature. Mais tout de suite, sur France Culture, on retrouve la poésie et c'est avec Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Il y a dans l'ardeur, cette anthologie qui nous arrive du printemps des poètes, des confrontations dans le choix, dans des successions, dans des textes apposés là, qui n'ont pas fini de faire couler beaucoup de larmes et d'encre. Si le cœur de l'homme ne déborde pas d'amour ou de colère, rien ne peut se faire en ce monde. Citation de Nikos Kazantzakis. Et j'étais content de la présence de Claude Bert. Il y a des choses que non, rappelez-vous, et de sa célébration de l'espèce. Voici, à perdre le souffle, Marion Collet dans Mon corps s'ouvre. Verdure, lilas, bosquet, rigole, rail, cabriole, nuée, route, rue, sillon, sillage, essaim, tube, allée, tuyau, asphalte, pavé, papillon. Éclat, couleur, trompe-l'œil, panier, amour, pain, sel, miel, destin, rayure, quai, déchirure, posture, caresse, parcours, détour, allure, tracé, retour, rubis, roc, escapade, ville, rêve, neige, esplanade, étang, lac, mare, creux, creuser, terre, phrasé, bleuet, mot, mort, mer, miroir, trésor, vapeur, noir, terreur, pliure, sentier, soir, chemin, forêt, insecte, corbeau, louve, fauvette, crapaud, champ, clocher, ruine, espace, cible, désert, cimetière, poussière, cratère, césure, blessure, artère, trace, méthode, matière, fleuve, usine, mémoire, usure, histoire, saison, feu, foyer, raison, image, crâne, fibre, maison, tronc, mystère, mousse, statue, rapace,
étoile, armée, astre, année, pieuvre, papier, promesse, prison, prouesse, lueur, gris, prière, roche, paupière, alliage, pierre, souvenir, abeille, chef-d'œuvre, infini, pont, écorce, brasier, nid, échelle, pouvoir, levier, ossement, piège, remords, limite, décor, regard, étendue, frontière, record, firmament, passion, richesse, valise, pluie, puits, flaque, fruit, tour, terre, mouchoir, bougie, outil, fresque, veine, pochoir, colline, estuaire, ligne, traverse, trou, hortensie, soleil.
Merci Jacques Bonnafé. À l'occasion du printemps des poètes consacré à l'ardeur, vous nous lisiez un poème de Marion Collet.